la question n'était pas. ne l'embrassez pas trop large.
Non.
Bon, non, mais en tout cas, merci pour tes commentaires et tes questions. Alors, pour répondre rapidement, sur le contour, l'arbitrage, les contextes qui privilégient un des piliers plutôt qu'un autre. Moi, je suis là-dessus assez. J'ai une posture de sociologue du politique, hein, c'est-à-dire que le policy process s'explique, pour aller très vite, par les rapports de pouvoir sur ces territoires. Et à partir de là, c'est à partir de là qu'on comprend le système décisionnel, comment on parvient à la fabrique d'une politique publique particulière, d'un dispositif particulier. Et voilà, c'est. Donc à partir de là, pour moi, la notion d'arbitrage, elle est. J'avoue que je n'utilise pas du tout cette notion. Pourquoi ? Parce que le fait d'insister sur un des piliers, soit le pilier économique, soit le pilier environnemental, soit est lié à ce que les coalitions sur ces territoires portent en termes de référentiel. Et des instruments qui sont liés à ces référentiels. Et alors, par exemple, si je prends le cas de Rio, c'est vrai que l'aspect environnemental est quasiment absent. Quasiment absent. D'ailleurs, le système Gandou a ravagé le territoire. Pour une raison très simple, les nappes sont polluées, les terres sont totalement polluées et improductives pour l'agriculture. Pourquoi ? Parce qu'il est pensé, c'est très simple, il est pensé avec les coalitions, hein, je reviens au système de coalition derrière, etc. Ce système, c'est on amène le plus possible d'eau sur ces territoires. Donc forcément, on utilise le plus possible d'eau qui est polluée, mais sans égout, qui est déversée dans la nature, dans les fleuves. Voilà. Résultat, les fleuves sont pollués totalement. Et les terres sont totalement polluées également. Ce système d'alimentation maximum en eau fait que l'environnement est totalement absent de ces préoccupations. Je ne sais pas si je réponds, c'est un peu trop rapide. Donc l'arbitrage, on voit bien qu'il n'y a pas d'arbitrage. C'est un système qui produit des politiques publiques de ce type. Enfin, pour moi, hein, voilà ma réponse. C'est ma posture de sociologue du politique. Ensuite, est-ce que c'est une catégorie d'analyse, le développement durable ? Oui. C'est-à-dire que c'est pour moi, c'est... pardon, ce n'est pas... Non, c'est l'inverse. Ce n'est pas une catégorie d'analyse. C'est une catégorie que l'on doit analyser. Les acteurs s'en servent. Voilà. Pardonnez-moi, je fatigue. Sur la circulation. Alors... Enfin, moi, je l'appelle comme ça, sur ta deuxième question, sur l'optimum territorial, quelle échelle ? Il y a deux questions, me semble-t-il. Il y a la question, pourquoi ça se diffuse à un moment donné ? Et il y a la question, comment se fait-il que sur certains territoires, ça peut fonctionner mieux qu'ailleurs ? Alors, pourquoi ça circule ? Là, c'est une question à laquelle je m'intéresse beaucoup pour l'Amérique latine. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, avec un collègue, on a remonté ce système d'importation, de circulation d'un paradigme qui lie développement territorial, participation et développement durable, qui vient en partie de l'Union européenne, mais pas seulement, mais aussi de fondations européennes, allemandes, françaises, le CIRAD. Je vais être coupable, mais je n'étais pas là à l'époque, donc je me dédouane. Le CIRAD, qui ont beaucoup importé ce paradigme développementaliste par les territoires en Amérique latine dans les années 90, même à partir de la fin des années 80, à travers des expérimentations spécifiques financées par le CIRAD, mais aussi la GTZ allemande, etc. Bon. Et donc, du coup... on voit bien circuler un paradigme. Alors, ce qui est intéressant, et ça me passionne encore plus, c'est comment, alors que le territoire, alors que le continent latino-américain est un continent qui ne se régionalise que très mal et très peu, régionalisation au sens de construction continentale de politique publique, et, enfin, construction continentale d'un gouvernement continental. On voit bien que c'est très compliqué en Amérique latine, tout simplement parce qu'il y a un monstre qui est le Brésil, qui empêche les autres de respirer. Bon, c'est moins vrai en Amérique centrale. Bref, enfin, en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 2000, ce paradigme de développement territorial a été un outil de continentalisation des politiques publiques. C'est-à-dire que ça s'est diffusé à l'intérieur de l'Amérique latine, et on voit les territoires discuter entre eux, s'échanger des pratiques, et on voit circuler ce paradigme et produire de l'intégration latino-américaine. Bon, oui, je fais très vite. Alors la transversalité, moi ce que je vois, c'est que on en parle beaucoup, mais le dispositif 2008, par exemple, de développement territorial rural, c'est un dispositif, enfin le dernier étage de la fusée, c'est un dispositif qui a voulu transversaliser éducation, santé, développement rural, que sais-je encore, lutte contre la pauvreté, etc. Et en fait, ce sont des interventions, ce sont, au résultat, on a affaire à un zonage d'interventions de multiples ministères. Donc, assez peu de transversalité, assez peu, voire pas du tout. Alors, par contre, pourquoi sur certains territoires, ça semble mieux marcher que sur d'autres? En tout cas, beaucoup mieux que les territoires que moi j'ai observés. J'ai lu des articles à côté de collègues brésiliens qui montrent que sur certains territoires, ça fonctionne mieux. Moi, je pense que l'hypothèse Pasquier, elle est intéressante. Romain Pasquier, qui a comparé Bretagne et Espagne, et je ne sais plus quelle région en Espagne, et qui dit, là où il y a une tradition de discussion entre les acteurs, d'organisation sociale sur ces territoires, pour instrumenter ces dispositifs, les intégrer dans leur logique de développement, ça fonctionne. Là où il n'y a pas cette tradition, ça ne fonctionne pas. Je pense que ce que raconte Pasquier, Romain Pasquier, ça me semble pertinent. Alors, les opérateurs, quel rôle? Alors, là, je vais répondre avec le fameux exemple français de politique de gestion de l'eau. Vous savez que c'est assez étrange, alors qu'en France, on a eu le municipalisme... Socialisme municipal, merci, je fatigue vraiment beaucoup. La gestion de l'eau en France est privatisée. C'est pas l'eau elle-même qui est privatisée, c'est la gestion de l'eau qui est privatisée. Bon. Et ce système s'est amplifié à la fin, enfin, dans les années 60, pourquoi? Et je répondrai par la même à ta question. Pourquoi? Parce que il y a eu un compromis politique entre les opérateurs à l'époque lyonnaise, etc., général des eaux, il y a eu un compromis politique autour d'un certain nombre de lois apparues dans les années 60 pour lier gestion de l'eau et intercommunalité, et notamment cette histoire de péréquation, du coût d'une gestion de la gestion de l'eau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Français sont raccordés à 98% au réseau. Alors, quand il a fallu exporter ce système, quand les opérateurs sont allés dans les années 2000, au moment de la mondialisation, même si je n'aime pas ce terme, lorsqu'ils ont voulu exporter ce système, ils se sont totalement plantés, parce qu'ils n'ont pas rencontré ce système politique dans les pays où ils sont allés. Et donc, ils se sont fait mettre dehors, avec pertes et fracas la plupart du temps. Parce que ce système n'était pas du tout adapté à ce qu'ils savaient faire. Il a fallu qu'ils changent leur pratique, etc. Mais c'était trop tard, la plupart du temps. Logique performative, bon, je passe. Est-ce que la durabilité est une notion qui permet aux acteurs publics d'imposer des politiques publiques? Alors le problème, c'est que ça, en tous les cas, moi, sur mes terrains, le seul exemple de durabilité que j'ai vu imposé par les acteurs publics et notamment fédéraux au Brésil, c'est la durabilité sociale en faveur de la petite agriculture. Ça, c'est une politique publique qui, avec toutes les guillemets, marche. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'effectivement, il y a une inclusion au marché, mais aussi à la société, d'acteurs qui allaient, et dans ces dispositifs, d'acteurs qui n'étaient pas du tout inclus. Et ça, on le voit. Maintenant, pour les autres politiques, je pense que vous l'avez compris, la durabilité, est, en tout cas environnementale, est assez secondaire. La durabilité qui domine, c'est celle de l'alimentation en eau, avec la préoccupation de savoir si les villes, d'ici 20 ans, auront suffisamment d'eau pour alimenter et ne pas laisser les citoyens urbains mourir de soif.